Itinéraire. Bienvenue sur Itinéraire, émission de Radio Grand Ciel sur une idée du foyer d'accueil Chartrain. Itinéraire vous propose de découvrir chaque semaine des parcours de vie discrets, mais toujours divers et singuliers, à travers la voix de nos invités. Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Bienvenue sur ce second épisode de notre émission Itinéraire avec Aïda, française d'origine libanaise, qui a commencé à nous raconter son parcours dans la première émission. Son parcours au départ du Liban, petit pays de 6 millions d'habitants avec une diaspora presque aussi importante, 4 à 5 millions de Libanais à l'extérieur, elle en fait partie, ou d'origine libanaise. Et elle va nous raconter, on s'en était tenu à son arrivée en France, elle va nous raconter maintenant concrètement comment s'est passée cette arrivée et progressivement comment elle s'est installée, elle est devenue à part entière une citoyenne française. Bonjour Aïda, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es parce que les auditeurs n'ont peut-être pas écouté la première émission?
Alors je suis Aïda, d'origine libanaise, française, arrivée à Paris en 1976 pour faire des études avec mon époux. Et donc on était dans le quartier latin. Après 2 ans, j'ai travaillé à Chartres. Donc on avait un fils et ma fille est née à Chartres.
Voilà. Donc au départ, vous étiez dans le quartier latin. Vous êtes resté combien de temps à Paris ?
Deux ans en tout, oui. C'est-à-dire entre Paris et Chartres. J'ai travaillé à Chartres.
Vous étiez au foyer franco-libanais, c'est ça ?
Voilà, et je travaillais à Chartres dans une association qui s'occupe des migrés. J'enseignais l'arabe et le français.
C'est pour ça que vous êtes venue sur Chartres.
C'est pour ça que je suis venue à Chartres.
Mais ton mari continuait à faire ses études alors ?
Voilà, ça a duré 14 ans. Et notre fils, il avait 2 ans.
Oui.
Alors, c'est pour vous dire comment l'intégration se fait dès l'âge de 2 ans à la maison. Mon mari lui parlait en libanais, le dialecte libanais. Et moi, je lui parlais en français. Je voulais qu'il maîtrise complètement. C'est la langue maternelle. C'est très important. Et quand notre fille est née, c'est pareil. On a une fille qui est née 10 ans après. C'était pareil. Le père lui parlait en libanais et moi, je lui parlais en français pour qu'elle puisse avoir les bases. Donc, c'est une parenthèse que je
non,
fais.
Non, ce n'est pas vraiment une parenthèse, parce que je crois que c'est même, si je puis me permettre, c'est même le cœur du sujet, puisqu'on essaie de comprendre comment on peut s'intégrer dans un pays. Bon, c'est la France, ça pourrait être un autre pays. Comment on peut bien s'intégrer dans un pays? On a vu qu'un des points particuliers, c'est que tu maîtrisais très bien le français à cause de tes études dans une école française au Liban. On va voir comment ça se passe ensuite pour les enfants.
Alors, c'est très clair, je vais être très, très rapide. Un enfant, vous lui dites à l'âge de 10, 12 ans, quand il vient à la préadolescence, vous lui dites, tu as une double culture, parce que la langue est liée à la culture. Vous connaissez une langue, vous connaissez la culture du pays. Donc, un enfant qui a une double culture est un enfant qui est un privilégié. Donc, il faut dire à l'enfant, utilise ta double culture, tu prends ce qui est bien dans chacune et tu jettes ce qui est mauvais dans chaque culture, parce qu'il y en a deux. Sans pour autant, après, ce qui est bien dans cette tactique, c'est que l'enfant, il se retrouve. Il n'a plus cette espèce qu'on appelle une dualité identitaire à l'âge de 16, 17, 18, 19 ans. Si tous les parents expliquent ça à leurs enfants...
Il n'a pas à choisir son pays de rattachement.
Je suis français, mais mes origines, mon pays d'origine, c'est le Liban. Mais tu es français, mon fils. Ta patrie, c'est la France. C'est ça qu'il faut expliquer aux enfants et à toutes les communautés qui viennent, qui viennent s'installer en France, j'insiste, c'est important.
D'accord. Alors bon, c'est vrai que, par exemple, tes enfants, notamment ton fils, que je connais, a une grande facilité pour les langues et qu'il s'intègre un petit peu partout puisqu'il est...
Ça, c'est pas moi qui le dis. Il y a beaucoup de neurologues qui disent qu'un enfant qui entend chez lui une autre intonation de voix, de langue, une autre intonation que sa langue maternelle, en l'occurrence, ça veut dire le français ici, dans le cas... Il entend une autre langue, il entend le libanais, il entend le dialecte libanais. Ce sont des enfants qui captent, leur cerveau capte beaucoup plus facilement des langues. Donc moi maintenant, il a 40 ans, il a cette langue complètement dans la poche.
Il maîtrise l'arabe totalement.
Il lit l'arabe, il écrit l'arabe, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, bon, enfin bref, presque toutes les langues européennes.
Donc la langue est très importante pour l'intégration.
C'est la base. Ouais. Il n'y a pas la langue, il n'y a pas l'intégration, se fera pratiquement pas.
Donc, si on revient à cette installation en France, tu as toujours pratiqué l'enseignement des langues. Après, tu t'es intéressé aux jeunes, mais il a fallu passer par la naturalisation quand même. C'est un point très important de l'intégration en France, puisque ça permet de voter.
Ça permet de voter et ça permet aussi d'être... citoyenne, complètement citoyenne.
Voilà. Alors comment ça s'est passé, cette naturalisation?
Ça s'est passé très vite. Il me semble que j'en ai déjà parlé.
Non, on n'en a pas dit.
Mon époux est un arabisant. Il est docteur en littérature. Et ils avaient besoin à la Sorbonne d'un professeur arabisant. Donc la nationalité a été faite rapidement. 3-4 mois, c'était fait, et il a intégré la Sorbonne.
Et de ce fait, toute la famille a été naturalisée?
Non, ma fille qui est née à Chartres, elle était naturalisée avant moi. Oui. Elle a été naturalisée à 6 mois, elle avait 6 mois.
Elle était française, c'était la seule alors.
La loi n'était pas pareille comme maintenant à l'époque. Voilà, et on s'est installé définitivement à Chartres après.
Et est-ce que ça a changé quelque chose, le fait d'être naturalisé français?
Oui, mais enfin, bien sûr, c'est
un achèvement.
C'est la fin du parcours, quoi. On devient complètement citoyen français.
Mais vous n'avez pas la double nationalité, par exemple?
Si, vous êtes
aussi citoyen.
Quand je pars au Liban, je pars avec mon passeport libanais. Et quand je reviens en France, je viens avec mon passeport français.
Oui, d'accord.
Il y a des conventions entre certains pays.
Parce que vous allez très souvent, les liens avec le Liban sont restés très forts.
Ils sont toujours très forts. Je passe tous les matins, je prends mon café avec mes sœurs sur Skype. Et puis j'y vais pratiquement un an sur deux. Mes sœurs viennent aussi de temps en temps. Mon père est venu, avant de décéder, il est venu deux fois. Si, il y a des liens très, très, très étroits.
Et j'ai constaté que vous parliez assez souvent arabe encore entre vous.
Certainement, c'est pas, vous savez, les racines dans le cerveau, la langue. C'est vrai qu'on parle 50 mots en français, on peut oublier un en arabe, comme tous les gens qui partent à l'étranger. Vous allez en Russie, vous parlez russe pendant 40 ans, vous apprenez 5 mots en russe, vous en oubliez un en français, c'est connu ça.
Mais... En dehors du Liban, où vous retournez avec lequel vous avez des liens, vous avez aussi des liens avec la communauté libanaise en France?
Oui, il y a pas mal de familles libanaises, que ce soit à Paris ou en France.
À Chartres aussi.
J'ai même de la famille sur Nice, j'ai de la famille dans le Nord. À Chartres, j'ai pas de famille, mais j'ai des amis.
Donc vous gardez des liens privilégiés.
On est dans les échanges culturels. On se donne rendez-vous pour parler surtout culture et racines. C'est important parce que le côté culturel, on n'en a pas du tout parlé, mais il y a des liens culturels entre le Liban et la France qui sont assez importants, puisque par exemple on a un académicien d'origine libanaise qui s'appelle Amin Malouf, qui a écrit un livre qui s'appelle Un fauteuil sur la scène, par exemple. On a aussi un grand trompettiste qui est d'origine libanaise, qui s'appelle Brahim Malouf. Et puis, il y a le fameux grand écrivain prophète qui s'appelle Khalil Gibran, qui est lui-même écrit un livre qui s'appelle Le Prophète, qui est très connu. Il y a aussi Alexandre Najar, qui est un écrivain qui habite pas loin de Chartres. Et sachez que, enfin, Napoléon a ramené des graines du cèdre du Liban. Il y en a 4 à Chartres. Si vous voulez les chercher, trouvez-les. Hein. voilà. Donc,
il y en a 4 à Chartres.
Il y en a 4 à Chartres, c'est sûr. Je me suis renseignée. 2 à l'école des cèdres, 1 pas loin de la cathédrale, et puis une autre qui doit être dans une petite commune à côté de Chartres, que je ne me souviens plus du nom.
Et qu'est-ce que c'est, l'école des cèdres?
L'école des deux cèdres, qui est rue du 14 juillet.
Ah oui, oui.
Ça,
ah, je vois, c'est l'école.
Ça, c'est des cèdres du Liban.
C'était voilà. L'UFM avant.
Et
c'était l'ancienne.
Voilà.
Oui, effectivement, voilà. Il y a de très grands cèdres. Oui.
C'est là où je suis allée pour repasser le concours de l'UFM, mais je l'ai raté pour que mon diplôme soit valable. Mais bon, après, j'ai repris des études en sociologie à l'âge de 50 ans. Ça marche maintenant.
Bon.
C'est bon.
Alors, donc, cette communauté libanaise en France, elle est estimée, vous avez dit, à combien de...
Moi, je dirais, enfin, vraiment, je ne suis pas statisticienne. Puis les statistiques, vous savez, ce n'est pas toujours évident. Moi, je dirais au moins 500 000. Mmh. Il y a au moins 250 000 dans la région parisienne, Paris, la région parisienne.
Mais est-ce que vous avez des liens importants plutôt avec les gens qui sont arrivés avant la guerre ou plutôt avec des gens qui sont arrivés après ?
Plutôt après. Avant, on était une ou deux familles seulement qui sont venues pour étudier.
Rare, vous étiez...
Pour étudier comme nous. Et il y avait une ou deux familles qu'on connaissait, des amis, c'est tout, mais...
Et maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux.
Maintenant, oui, mais même à Chartres.
Par obligation, oui.
Oui, oui, même à Chartres, il y a au moins une quinzaine de familles. Alors, quand je suis arrivée en 76, j'étais pratiquement... On était la seule famille, oui, mon mari et moi.
Donc, si on en revient à la continuité de l'intégration en venant à la deuxième génération, comment ça s'est passé pour les enfants? Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les deux enfants?
Moi, je suis quand même très fière d'avoir donné à ma patrie un juge et un médecin. Donc, mes deux enfants, je les ai faits pour la France, ma patrie, un juge et un médecin. Ils se sont très bien intégrés. Il n'y avait pas ce problème de dualité identitaire. Ils sont français d'origine libanaise. Ils sont j'espère, enfin je pense, ils sont épanouis, contents, heureux. Mes petites filles comprennent parfaitement le libanais.
Mais on leur apprend.
Leur père leur parle en libanais et leur mère leur parle en français. Donc l'imprinting social continue, la double culture, pourquoi pas, après tout. Ils sont prenants, les enfants sont prenants, pourquoi pas. C'est une belle culture, la culture libanaise, il y a de quoi être fier.
Mais est-ce que, quand tout à l'heure tu as dit le dialecte libanais, c'est une forme d'arabe particulière?
Oui, parce que vous avez l'arabe littéraire qui se parle dans tous les pays. L'arabe littéraire, c'est l'arabe avec lequel les présidents des républiques s'adressent au peuple en Afrique du Nord. Mais il y a le dialecte libanais, comme en France, il y a le dialecte du sud, du nord, du breton. Il y a un dialecte, comme dans tous les pays. Qui est très proche de l'arabe littéraire, donc on n'a pas de difficulté en dialecte à dialoguer avec d'autres arabes qui ne sont pas libanais.
D'accord, donc ça permet d'échanger, de parler avec toutes les personnes arabisantes finalement.
Voilà, exactement.
Bien, mais est-ce que tu veux faire passer un message après avoir raconté un petit peu ton parcours, ton arrivée en France et...
Je dis à tous les gens qui quittent leur pays d'origine, forcés ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont forcés de venir, il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes, comme moi, je suis venue pour étudier avec mon époux, et qu'il faut toujours être positif, aller d'avant, et considérer que la vie est une belle chose et que la France est un très grand pays. Un très grand pays. J'espère que la France va rester un grand pays de tout mon cœur. Et c'est tout. Voilà,
Bien. Bon, et merci pour ce message. Alors, au revoir Aïda.
Merci, Martine, à toi. Au revoir.
Alors, les auditeurs peuvent écouter la retransmission de cette émission sur le site de Radio Grand Ciel, bien entendu. Au revoir.